Et oui, 1er mars aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Hélène Denis qui vous accompagne, c'est l'émission Le quotidien des quotidiens. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous avez l'air de bonne humeur.
C'est comme ça.
Oui.
Est-ce que vous voulez? Je suis née de bonne humeur.
Ah, moi je suis née fatiguée. Non, c'est pas vrai. Mais c'est bien ça, être de bonne humeur, oui, et bon, votre bonne humeur est contagieuse.
C'est vrai, bon. Ouais. Heureusement qu'on est, voilà, séparés par une fenêtre.
Non, pourquoi vous dites ça?
Ben, parce que sinon on aurait des fous rires dans
la
journée.
Ah oui, on en a quand même. Alors, je vous écoute, oui. Et on vous écoute, puisque les auditeurs sont tout oui pour la chronique éphéméride 1er mars.
1er mars, c'est la journée mondiale de la protection civile, ainsi que la journée mondiale du compliment.
Et moi, j'ai lu que c'était la journée mondiale des compliments.
Ah, bon,
parce qu'il
voilà.
y en a plus qu'un.
C'est vrai.
Il faut en faire plus qu'un. Donc, alors, faites-moi en un.
Oui, voilà.
Allez-y!
Ah, Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Ben, je sais pas.
À brûle pour point comme ça, vous avez...
Spontanément.
Spontanément, vous avez de bien beaux cheveux ce matin.
Oh, merci. Et vous êtes très gentil.
En 1565, fondation de la colonie portugaise de Rio de Janeiro au Brésil. 1er mars 1632, nommé gouverneur de la Nouvelle-France, Samuel de Champlain est le premier à occuper ce poste. En 1692, à Salem, au Massachusetts, les trois premières femmes accusées de sorcellerie sont condamnées à la pendaison. 1780, 1er mars toujours, la Pennsylvanie est le premier État américain à légiférer pour abolir l'esclavage. Honoré Beaugrand, quant à lui, en 1886, est élu maire de Montréal. C'est le début du service postal entre le Canada et les États-Unis en 1888. 1er mars 1916, un incendie détruit la gare Bonaventure à Montréal. 1927, par un jugement du Conseil privé de Londres, le Labrador est attribué à Terre-Neuve, une décision que le Québec contestera. En 1929, premier courrier aérien entre Montréal et Vancouver. Décidément, ça aurait pu être la journée de la poste. 1er mars 1932, le fils de 20 mois du prisonnier de l'aviateur Charles Lindbergh est enlevé au New Jersey. Il sera retrouvé mort en mai. 1965, l'explosion d'un édifice à logement à La Salle sur l'île de Montréal fait 28 morts. C'est la sortie du film « Vol au-dessus d'un nid de coucou » de Milas Forman avec Jack Nicholson en 1976. Et devant la commission Dubin, l'entraîneur Charles Francis admet que Ben Johnson et d'autres athlètes prennent des stéroïdes depuis 1981. Je vais en nommer humoriste 2-3, en fait 2. Merci. En 1999, signé le 3 décembre 1997 à Ottawa par 133 pays, mais toujours boudé par les États-Unis, le traité d'interdiction des mines antipersonnelles entre en vigueur. Et en 2001, atteignant 1,02 milliard d'habitants, l'Inde devient le premier pays après la Chine à franchir ce seuil. Et pour ce qui est des naissances du 1er mars, nous avons le compositeur polonais Frédéric Chopin, qui est né en 1810, et Glenn Miller, le jazzman américain, est né en 1904.
In the moon.
Je vais en faire jouer aujourd'hui, d'ailleurs.
Ah oui?
Ben oui, c'est...
Nous, on peut se promener dans tous les genres musicaux.
C'est l'avantage
c'est fantastique.
De Canalem.
Oui, oui. Un des grands avantages, entre autres.
Un autre compliment qu'on nous faisons
oui,
nous-mêmes.
Oui, c'est ça. On s'auto-complimente, mais on complimente aussi la station pour laquelle on travaille.
Tout à fait.
Alors, merci, cher Mathieu.
Ça fait plaisir.
À la une de la presse, service de sécurité incendie de Montréal, une centaine de cas de cancer liés à l'exposition à des fumées nocives ont été recensés chez les pompiers montréalais depuis 2002. Afin de réduire les risques, de nouvelles mesures de décontamination seront mises en place cette année. Exclusif, une première maison Alzheimer. un parc, un bistrot, la maison, l'étincelle, inspiré d'un concept néerlandais, recrée des espaces stimulants pour ses résidents. La chronique de Patrick Lagacé intitulée « La triste agonie du Bloc québécois ». Et les chroniques de Michel Ouimet et de Nathalie Petrovski, « Congédiement, mérité ou exagéré ». Les chroniqueuses reviennent sur l'affaire Gilbert Sicotte. C'est un article d'Yvon Laprade, collaboration spéciale à la presse, exclusivement. Un petit café bistrot, un parc où la nature est verdoyante, une salle à manger comprenant du mobilier tendance, un grand salon avec une télé à écran plat, un foyer où dansent les flammes et une bibliothèque remplie de livres et de jeux de société. Nous ne sommes pas dans une luxueuse résidence pour retraités, comme on en trouve de plus en plus au Québec, mais plutôt dans la première, entre guillemets, maison Alzheimer, aménagé à partir des plus récentes recherches en gérontologie réalisées dans le monde. Tout a été fabriqué pour donner l'impression aux résidents qui ont perdu la notion du temps et de l'espace, qu'ils vivent en milieu urbain dans un grand bungalow avec de fausses fenêtres. Le personnel médical ne portera pas l'uniforme habituel. Même chose pour le personnel d'entretien. Rien à voir avec les règles strictes en vigueur dans les établissements de santé et les centres hospitaliers de soins de longue durée. Dans quelques jours, la maison L'Étincelle à Verdun, un projet financé entièrement par le secteur privé, accueillera ses premiers locataires. Pour y habiter, chaque résident devra payer près du double du loyer mensuel exigé dans un CHSLD ou dans une ressource intermédiaire publique-privée. Le concept est avant-gardiste. On veut que nos résidents puissent vivre à leur rythme et prendre leur petit déjeuner à l'heure qui leur convient, explique le responsable du projet Sébastien Barrette, dont le père lui-même, atteint de la maladie de la mémoire, laisse filer le temps dans un CHSLD de la région de la Naudière. On va les encourager à jardiner dans la cour arrière et à pelleter de la neige si c'est là leur désir. On espère allumer chez eux la petite étincelle tout en créant un environnement convivial où nos résidents pourront recevoir leur famille à dîner ou à souper, comme s'ils étaient chez eux. La maison hébergera une dizaine de pensionnaires qui seront traités aux petits soins, dans un environnement personnalisé et maquillé, de façon à leur faire oublier qu'ils vivent dans une résidence spécialisée entre quatre murs. On a dépensé 100 000 $ pour aménager cet espace de vie où on a reproduit avec des images grandeur nature une rue, un parc, un café-bistrot, souligne le responsable de la maison, également associé à la ressource intermédiaire Notre-Dame-de-la-Paix qui héberge 155 personnes en perte d'autonomie. Personnes atteintes d'Alzheimer en 2018, au Québec, 77 000, au Canada, 564 000, prévision en 2038, au Québec, 150 000, au Canada, 1 million. Victoire de Restigouche contre Gastembe. Une petite municipalité de la Gaspésie vient de remporter son long bras de fer judiciaire contre l'entreprise pétrolière Gastembe. La Cour supérieure a donné raison à Restigouche Sud-Est dans un jugement que salue l'Union des municipalités du Québec, UMQ. La juge Nicole Tremblay a débouté l'entreprise qui réclamait un peu plus de 1 million à la municipalité de 160 habitants. Qualifiant la poursuite d'exagérée, la Cour ordonne à Gastembe de verser 164 000 $ à la municipalité pour couvrir différents frais. La société pétrolière poursuivait Restigouche à la suite de l'adoption en 2013 d'un règlement pour la protection de l'eau. Ce règlement, qualifié d'illégal par la poursuite, a obligé Gastembe à mettre un terme à son projet de forage dans la municipalité. Loin d'être adopté de façon intempestive et précipitée, le règlement résulte d'un travail sérieux afin de répondre aux préoccupations et revendications des citoyens de Restigouche a dit la juge Nicole Tremblay dans son jugement. La mairesse Valérie Plante mènera sa toute première mission économique en juin au Japon, où elle compte s'intéresser notamment à l'électrification des transports. Le Japon est la troisième puissance économique du monde. Il offre de nombreuses opportunités d'affaires, a indiqué l'élu hier matin lors d'une réunion de sa garde rapprochée. Valérie Plante profitera de l'inauguration de la liaison directe entre Montréal et Tokyo qu'offrira Air Canada à partir du 1er juin pour visiter le pays du soleil levant. Ce voyage est organisé en collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui prévoyait envoyer une délégation. Gaëtan Barrette a adopté un arrêté ministériel pour empêcher les optométristes de se retirer du régime public. Au début de février, leur association avait annoncé que 90 % des membres, plus de 1200, avaient décidé de se retirer de la RAMQ, une mesure qui prendrait effet le 10 mars. Elle a conclu à l'échec des négociations avec le gouvernement sur le renouvellement de leur entente de tarification. Cette entente définit les conditions de participation des optométristes au régime public qui couvre la population de moins de 18 ans, de 65 ans et plus et les prestataires de la sécurité du revenu. Or, selon l'arrêté ministériel publié hier dans la Gazette officielle du Québec, Gaëtan Barrette décrète la suspension de la possibilité des optométristes de devenir des professionnels non participants à la RAMQ et d'exercer ce même genre d'activité dans l'ensemble du Québec. L'Association des optométristes du Québec veut faire déclarer inapplicable, invalide et inopérant l'arrêté ministériel. Pourquoi la Chine censure Winnie the Pooh? Les Chinois ont été si nombreux à diffuser des images de Winnie the Pooh sur les réseaux sociaux depuis dimanche que les censeurs sont intervenus. Les images de l'ourson qui aime le miel sont désormais bloquées. Le public protestait contre la décision du président Xi Jinping de faire sauter la limite de 2 mandats à la tête de l'État. Explication de Nicolas Bérubé. Les Chinois se sont moqués cette semaine de leur président Xi Jinping en diffusant des images de Winnie the Pooh sur les réseaux sociaux Weibo et WeChat, si bien que les censeurs ont mis fin à la pratique en effaçant les images offensantes, ainsi que les billets contenant les expressions « Je proteste »,« Proclamer roi », »,« Winnie the Pooh » et « Système féodal ». Un slogan attribué à Winnie the Pooh, « Find what you love and stick with it »,« Trouve ce que tu aimes et reste-y fidèle », a lui aussi disparu des réseaux sociaux. Les Chinois protestaient contre l'annonce dimanche de l'intention du Parti communiste chinois de changer la constitution du pays pour en retirer l'obligation pour le président de quitter son poste après 2 mandats de 5 ans. Ce changement permet au président Xi Jinping de rester au pouvoir aussi longtemps qu'il le désire. « Argue, nous allons devenir la Corée du Nord », a écrit un utilisateur sur Weibo, peu impressionné par la nouvelle directive. La comparaison entre Winnie the Pooh et M. Xi remonte à 2013 lorsque le personnage et son ami Tigrou avait été utilisé en juxtaposition à une photo montrant Xi Jinping et Barack Obama. Depuis, les images de Winnie, employées pour rire de M. Xi, redeviennent périodiquement sur les réseaux sociaux chinois. Météo, l'Europe grelotte, surnommée la bête de l'Est par les médias britanniques. La vague de froid sibérien qui frappe l'Europe a fait près de 50 morts depuis une semaine. Beaucoup de photos. Dans la presse, hier, le quotidien The Guardian a noté que la température était plus basse à Londres, où il faisait moins 4 qu'au pôle Nord, où la température frôle ces jours-ci le point de congélation. Les températures très basses devraient perdurer jusqu'à aujourd'hui et affectent principalement les sans-abri. Partout en Europe, notamment à Minsk, en Biélorussie, les transports continuent d'être perturbés. Même les dunes du village de la Teste de Buche, dans le sud-ouest de la France, ont changé de look au cours des dernières heures. Malgré les nombreux cas de noyades répertoriés, notamment aux Pays-Bas, Cet homme s'est aventuré sur les rives du lac de Neuchâtel dans les Alpes suisses. Toujours d'après une photo, la ville de Venise et ses gondoles n'ont pas été épargnées au grand dam de cet homme. Alors, il y a un homme qui est dans une gondole qui est pas mal enneigée. La neige et le verglas ont semé la pagaille sur les routes de Pampelune dans le nord-est de l'Espagne. En Allemagne, l'association d'aide pour les sans-abri a réclamé que les centres d'accueil soient ouverts toute la journée et pas seulement la nuit. Et finalement, il fallait être brave pour s'aventurer à l'extérieur, mais ce membre de l'association sportive, on voit un homme en short avec son casque de bain et ses palmes. Les palmes, il les tient dans ses mains. Alors, il est dans l'association sportive Les Ours Blancs de Biarritz et il a repoussé les limites de façon spectaculaire. Il est nu-pied, il marche dans la neige.
C'était la chanson « L'hiver », Monique Lérac.
Merci Mathieu. Vous me faites un compliment en faisant tourner du Monique Lérac et je suis certaine que ça fait plaisir à plein d'auditeurs. À la une du Devoir, c'est très émouvant. Parkland, retour à l'école. Les élèves de l'école Marjorie Stoneman Douglas à Parkland, en Floride, ont repris le chemin des classes mercredi, deux semaines après la fusillade meurtrière. Les étudiants ont notamment été accueillis par une haie d'honneur formée de policiers de la municipalité. Bloc québécois, le choc de visions opposées. Les défenseurs des intérêts du Québec se sont effacés devant les purs et durs de l'indépendance, selon d'anciens députés. Action collective, Roson riposte au recours des courageuses. Le fondateur de Juste pour rire demande de radier les termes prédateurs sexuels et viol de la requête. Élections en Italie, l'immigration au cœur des débats. Le pays a dû affronter sans l'aide de l'Europe la pire crise migratoire de son histoire. Culture, Mac Joffat sur scène. Après un premier disque, le frère d'Ariane Moffat s'amène au Lion d'or. Et toujours en culture, en effeuillant les marguerites, la chronique d'Odile Tremblay qui revient sur la pièce « Les marguerites » à l'Espace Go en ce moment. Ristigouche, la ville obtient justice contre la pétrolière Gastem. Et destitution, le juge Giroir sauvé pour une question linguistique. Aussi inopiné qu'il puisse paraître, l'éclatement retentissant du Bloc québécois résulte de tensions qui remontent à bien avant l'arrivée de Martine Ouellet. Il découle de la prise de contrôle des instances du parti par les « émules pures et dures » entre guillemets de Mario Beaulieu, estiment plusieurs anciens bloquistes interrogés par Le Devoir. Certains craignent maintenant que la même dynamique soit à l'œuvre au Parti québécois, avec l'affrontement Maxime Laporte-Jean-Martin Ossant à l'investiture dans Pointe-aux-Trembles. Le fondateur de Juste pour rire, Gilbert Roson, veut faire supprimer les termes « prédateur sexuel » et « viol » de la demande d'autorisation d'exercer une action collective d'un regroupement de présumées victimes. Il soutient que ceux-ci font référence à des actes criminels sur lesquels la Chambre civile ne peut se prononcer. L'ancien producteur demande à faire radier certaines allégations qu'il qualifie de calomnieuses, de diffamatoires et de non pertinentes contenues dans la demande du groupe « Les Courageuses » peut-on lire dans un document déposé à la Cour et dont Le Devoir a obtenu copie. Le regroupement Les Courageuses a été créé à la suite des révélations du Devoir et du 98.5 à propos d'allégations d'inconduite sexuelle de la part de M. Roson sur 9 femmes. Dans une demande d'action collective déposée à la fin de novembre, Les Courageuses lui réclament des millions de dollars en indemnisation. Le 8 février dernier, lors de sa première apparition publique suivant les révélations, M. Roson a nié les gestes qui lui sont reprochés. Le fondateur de Juste pour rire a aussi déposé une demande pour interroger pendant 90 minutes la comédienne Patricia Tulane, qui souhaite être la représentante du groupe. Parmi les multiples bactéries qui colonisent en permanence notre peau, une souche particulière de Staphylococcus hypodermidis nous protégerait du cancer de la peau, a découvert une équipe de chercheurs de l'Université de Californie à San Diego. Et autre bonne nouvelle, cette souche bactérienne est présente sur la peau d'environ 80% des humains. Évitement fiscal, Morneau a raté une occasion de montrer sa détermination. Le gouvernement Trudeau a raté dans son nouveau budget une belle occasion de montrer à la population qu'il faisait quelque chose contre les paradis fiscaux, et ce, même si des changements fondamentaux sont effectivement en cours, mais qu'ils ne sont pas encore achevés. Le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, semble avoir fait l'unanimité contre lui mardi pour le manque de vigueur de sa lutte contre l'évitement fiscal des grandes entreprises et avoir ouvert la porte à la taxation des géants du Web pour remettre tout de suite la décision à plus tard, le temps de consulter ses pays partenaires et de réaliser des études. Deux semaines après avoir vu mourir sous les balles leurs camarades de classe, les élèves d'une école secondaire de Floride ont repris mercredi le chemin des cours dans l'émotion et l'espoir que leur pays agira enfin contre les armes à feu. « Je me sens tendue, mais nous sommes vraiment soutenus par tout notre entourage », confiait Emily Kijano, une adolescente de 16 ans. « L'ambiance est relativement triste parce que nous connaissions les personnes qui sont mortes. C'est triste parce qu'une telle chose n'aurait jamais dû arriver », ajoutait l'élève de Marjorie Stoneman Douglas dans la ville de Parkland. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, un jeune homme qui avait été renvoyé de l'établissement a ouvert le feu dans les classes. Nicholas Cruz, 19 ans, a abattu 17 personnes et fait 16 blessés. Un carnage qui aurait pu être pire. Le fusil d'assaut semi-automatique qu'il avait acheté légalement se serait enrayé, selon des sources d'enquête citées par CBS. Ce qui me rend le plus en colère, c'est que deux semaines après tout cela, pas un seul texte de loi n'a été adopté, ni par l'État, ni au niveau fédéral, regrettait David Hogg, un des élèves les plus en vue dans la contestation. Et en dépit d'une levée de boucliers d'une ampleur inédite, la majorité droite, extrême droite, au pouvoir en Autriche a présenté mercredi au Parlement son projet de loi visant à permettre de continuer à fumer dans les bars et restaurants. Mais la fronde gronde contre cette initiative qualifiée par l'opposition d'énormes pas en arrière en matière de politique de santé et qui condamnerait l'Autriche à rester un des derniers pays d'Europe où il demeure possible de fumer dans les débits de boissons. Voulu par le parti d'extrême droite FPO, entré dans le gouvernement du jeune chancelier conservateur Sébastien Kurz en décembre, le texte qui doit être examiné dans les prochaines semaines vise à annuler une loi d'interdiction totale du tabac dans la restauration adoptée en 2015 et devant entrer en vigueur le 1er mai. Vous écoutez la radio de Canal M de Vues et Voix et c'est Hélène Denis qui vous accompagne à l'émission Le quotidien des quotidiens à venir, la revue de presse du Journal de Montréal. Restez avec nous. Silence abattoir.
Saratoga, je t'attends dehors.
Du Journal de Montréal du jeudi 1er mars 2018, des écoles débordent, pas de place pour manger, bouchons dans les corridors, gymnase coupé en deux. Wallet largué, mal de bloc. Et à ce sujet, les chroniques de Joseph Facal, une fin lamentable, et José Legault, le gâchis a assez duré. Autour des écoles secondaires de déborder, sans aide rapide, la pression va se traduire par une baisse de la réussite des élèves, s'inquiète Patrice Brisebois, directeur de l'école Saint-Laurent dans l'arrondissement du même nom. Cet établissement est déjà occupé à 100 % comme c'est le cas pour 12 écoles secondaires sur les 13 de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, CSMB. Dans deux ans, il y manquera près de 1 000 places selon des chiffres obtenus par le journal. Ces statistiques sont conservatrices selon la présidente de la CSMB, Diane Lamarche-Venne. On ouvre plus de classes d'accueil et de plus en plus rapidement, remarque M. Brisebois. Or, ces classes, qui regroupent des élèves en apprentissage du français, ne peuvent compter qu'un maximum de 17 jeunes contre une trentaine en classe régulière. Des fois, on mange debout. « Ou sur les genoux, les uns des autres », dit Gail César, 15 ans, élève à Sophie Barra. Une école pleine à craquer dans l'arrondissement d'Aounsic-Cartierville. Impossible de circuler dans les corridors de cette école de la Commission scolaire de Montréal sans tomber sur des adolescents qui prennent leur repas au sol. Dans l'espace surpeuplé, les adolescents ont la mèche plus courte. Le tiraillage peut se transformer en barrage. En bagarre, plutôt. Un jeune qui se fait bousculer ne va pas toujours réagir avec courtoisie, dit le directeur de l'école Saint-Laurent. C'est pourquoi des flèches ont été collées au sol de son établissement pour indiquer aux élèves dans quel sens circuler et ainsi éviter la création de bouchons et de bousculades. La CSMB demande du financement du ministère pour ajouter 45 vrais locaux à cette école. Or, certains de leurs projets d'agrandissement ont été refusés l'an passé. Et quand ils ont l'argent, les arrondissements qui accordent les permis des travaux mettent trop souvent des bâtons dans les roues, dit Mme Lamarche-Venne. On a une accumulation de problèmes qui nous amène vers un mur, avertit-elle. Peine record d'au moins 35 ans de pénitencier. Un meurtrier a reçu la sentence la plus sévère jamais rendue au Québec. Le double meurtrier Benjamin Hudon Barbeau, célèbre pour son évasion de prison en hélicoptère, devra passer au moins les 35 prochaines années derrière les barreaux après avoir écopé d'une peine record. Ainsi en a décidé la juge France Charbonneau hier, aux dépens de celui qui a été déclaré coupable d'avoir commandé 2 meurtres et 2 tentatives d'homicide en moins d'un mois à l'automne 2012 dans les Laurentides. Condamné automatiquement à l'incarcération à perpétuité, Hudon Barbeau ne sera pas admissible à une libération conditionnelle après avoir purgé 25 ans de pénitencier comme les autres meurtriers. Dans son cas, la juge a exceptionnellement prolongé ce délai de 10 ans. La perspective de réhabilitation à court, à moyen et même à long terme est quasi inexistante, a fait valoir la juge Charbonneau au sujet de cet ex-aspirant des Hells Angels ciblé dans l'opération Shark. Incommodé par un navire de guerre coincé dans le port, Un navire de guerre américain coincé dans les eaux glacées du port de Montréal depuis Noël donne des maux de tête à des résidents du secteur en raison du vacarme causé par ses génératrices. Le bruit est infernal. La nuit, on n'entend que ça et on n'arrive plus à dormir, raconte le journaliste et éditeur bien connu Alain Stanquet, en montrant l'imposant bateau militaire stationné devant chez lui, quelques 7 étages plus bas. Son immeuble à condo de 64 unités situé sur l'avenue Pierre-Dupuy, non loin d'Habitat 67, donne sur le terminal Barker Dyke du port de Montréal où le USS Little Rock est amarré depuis plusieurs semaines. Pour répondre aux plaintes du voisinage, le port de Montréal a fait installer un mur anti-bruit sur les génératrices début février, une initiative qui n'a pas été suffisante selon un autre locataire de l'immeuble. La direction du port a annoncé aux résidents que d'autres ajustements seraient apportés cette semaine pour atténuer le bruit. Les frais liés à cette opération sont assurés par l'armée américaine. Un tableau de Pablo Picasso représentant sa compagne Marie-Thérèse Walter et dans lequel se cache aussi sa future maîtresse, Dora Maar, a été vendu 49,8 millions de livres, 87,9 millions de dollars canadiens, aux enchères à Londres hier. Femme au béret et à la robe quadrillée, Marie-Thérèse Walter, peinture à l'huile de 55 sur 46 cm, était proposée au cours d'une vente d'art impressionniste, surréaliste et d'art moderne à la maison d'enchères Sotheby's à Londres. Ça faisait la une de la presse et on en parle aussi dans le Journal de Montréal. Les cas de cancer chez les pompiers de Montréal exposés aux contaminants des flammes inquiètent les élus de la métropole qui rencontreront le service incendie prochainement pour trouver de nouvelles pistes de prévention. Depuis 2002, 87 réclamations auprès de la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail pour des cancers chez les pompiers de Montréal ont été acceptées en lien avec leur travail sous les flammes, indique un document de la Ville qui sera présenté aux élus dans les prochaines semaines. Les cancers des poumons et de la vessie arrivent ex aequo en tête des cancers les plus répertoriés chez les pompiers de Montréal, suivis du cancer des reins. En fugue depuis le début du week-end, Kelly Martin-Nollet a été retrouvée saine et sauve hier à Montréal. L'adolescente se trouvait avec une amie plus âgée lorsqu'elle a été localisée par des agents de la police de Montréal en après-midi. La copine en question n'aurait pas collaboré avec les autorités et aurait refusé d'ouvrir la porte si bien que les policiers auraient dû la défoncer et entrer de force selon nos informations. Quant à son copain soupçonné d'être un proxénète par les proches de la jeune fille, il a été appréhendé par la police de Toronto. Connu des autorités, il sera rencontré par des enquêteurs afin de voir s'il est impliqué dans la fugue de l'adolescente. Une allée dans le Vieux-Montréal décorée d'une dizaine de néons située à côté du bar-restaurant Le Fly Gin sur la rue Saint-Pierre est devenue virale sur les réseaux sociaux. C'est rendu in d'être allé dans cette ruelle alors que les lumières étaient allumées pour s'y photographier. Comme il faut un permis de la ville pour l'éclairer, les néons ne sont ouverts que lors d'événements spéciaux. Ils ont été installés dans le cadre des célébrations du Nouvel An chinois et brilleront de nouveau lors du Grand Prix de Montréal. Alors que le Québec réclame plus de transparence de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le premier ministre Philippe Couillard rencontrera la secrétaire générale de l'institution, Michaëlle Jean, la semaine prochaine à Paris. Cette rencontre survient 8 mois après une controverse entourant les dépenses de Mme Jean. Elle précède un sommet de l'OIF prévu en octobre où la secrétaire souhaite obtenir un nouveau mandat de 4 ans des États et gouvernements membres, dont le Québec. La cascade des départs à la Maison-Blanche se poursuit. Hope Hicks, proche conseillère de Donald Trump, a annoncé hier sa démission. La jeune femme de 29 ans occupait depuis septembre le poste de directrice de la communication. « Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude au président Trump », a-t-elle indiqué, sans autre précision sur les raisons de son départ soudain. Signe de l'importante rotation au sein de l'équipe Trump, Hope Hicks était la quatrième personne à occuper cette fonction.
D'heure en heure, de jour en jour, de semaine, en mois, en année, je te cherche encore. De belle en belle, j'ai fait le tour des dizaines, des centaines, des milliers. Je te cherche de tous les bords, mais je t'ai pas trouvé, pas encore. Je t'ai pas encore trouvé, non, non, non. Est-ce que t'es caché en quelque part? Comment je fais pour te reconnaître? Quelle robe tu vas porter? Peut-être un beau foulard, peut-être les cheveux détachés. À de la minute, je te vois paraître. Et tiens-toi prête à te faire lever. Comme un loup love sa louve, comme un bandit couvre son trésor. De mal de cœur en mal tout court, de madame à masque en émeuse armée, je te cherche encore. L'œil ailleurs au corps toujours, amène la prochaine, moi l'essayer. Je te cherche de tous les bords, mais je t'ai pas trouvé, pas encore. Je t'ai pas encore trouvé, non, non, non. Est-ce que t'es caché en quelque part? Comment je fais pour te reconnaître? Quelle robe tu vas porter? Peut-être un beau foulard, peut-être les cheveux détachés. De la minute, je te vois apparaître. Tiens-toi prête à te faire lever. Comme un loup love sa louve, comme un bandit couvre son trésor. Peur en peur, ça devient lourd. De peine en peine, j'en deviens athée. Je te cherche de tous les bords, mais je t'ai pas trouvé, pas encore. Je t'ai pas encore trouvé, non, non, non. Est-ce que t'es caché en quelque part? Dis-moi juste où, quand, comment. J'arrive tout de suite, je m'habille en blanc. Hawaï en haut, capot, corbeau, dur à dire comment c'est beau. Hawaï le rouge, Hawaï la blouse, on en fait deux, pis dix, pis douze. Hawaï.
Daniel Boucher et sa chanson « Je te cherche encore ».
Je commence avec une chronique de Denis Graton dans Le Droit pour cette tournée des journaux régionaux. Et on en parlait en début d'émission lors des éphémérides de cette journée mondiale des compliments. Un simple compliment, c'est le titre de sa chronique. Plutôt dangereuse comme journée par les temps qui courent. Aujourd'hui, le 1er mars, c'est la journée mondiale des compliments. Oui, la journée mondiale des compliments. Je n'invente rien, ça existe, et ce depuis 2003, donc 15 ans. Cette journée spéciale a pris racine aux Pays-Bas et elle se veut la journée la plus positive dans le monde, affirme-t-on sur le site World Compliment Day. Voici ce qu'on peut lire. Cette initiative, contrairement à la Saint-Valentin, la fête des secrétaires et la fête des mères et des pères, n'est pas commercialement orientée. Donc, tout le monde peut se permettre d'y participer. La Journée mondiale des compliments répond tout simplement aux besoins fondamentaux chez l'homme et la femme de reconnaissance et d'appréciation. Personne n'y gagne au sens commercial, mais tout le monde y gagne sur le plan émotionnel, et c'est là que réside toute sa puissance. De gagner sur le plan émotionnel, je n'ai aucun problème avec ça. Une bonne victoire émotionnelle, ça remonte le moral. Mais comme je disais en entrée en matière, c'est plutôt dangereux de lancer des compliments aux quatre vents par les temps qui courent, c'est-à-dire en ces temps, moi aussi, mon clic, moi aussi. Un compliment peut parfois être interprété de plusieurs façons. Et nous en sommes rendus au point où il faut tourner notre langue 7 fois avant d'offrir un simple compliment. Comme quoi, vouloir faire plaisir peut parfois être dangereux. Il y a par exemple une énorme différence entre lancer un « t'es bien belle aujourd'hui » à sa conjointe et de le lancer à une collègue de travail. La première risque de vous donner un baiser, la deuxième risque de vous donner une claque sur la gueule bien méritée. Mais je reviens à ce site Word Compliment Day. Voici ce qu'on ajoute à propos de cette journée mondiale des compliments. Un compliment sincère et personnel ne coûte rien, mais son impact sur le destinataire est énorme. Rien n'est plus stimulant, ne donne plus d'énergie, ne rend les gens plus heureux et au niveau professionnel, ne suscite davantage et plus vite de productivité et d'engagement qu'une appréciation sincère. Si le 1er mars, chaque individu fait part à au moins 3 personnes dans son entourage ou réseau social d'un compliment authentique et sincère, nous créerons, à en plus douter, la journée la plus positive dans le monde. Voici les mots que je retiens du paragraphe précédent. Au niveau professionnel, rien ne suscite davantage de productivité et d'engagement qu'une appréciation sincère. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas, cher lecteur? C'est ça. Allons voir le patron. Patron? Oui, Graton. Un bon compliment bien senti de votre part me ferait le plus grand bien et susciterait davantage de productivité de ma part. Ta chemise te va bien. Ça te va comme compliment? Mais ce n'était pas très sincère comme compliment, patron. D'abord, ma chemise est très ordinaire et elle ne me va pas si bien que ça. Et elle n'a rien à voir avec ma productivité. D'accord. Alors, ta chemise te va bien, Graton, quand tu es assis à ton bureau en train de travailler plutôt que d'être ici dans mon bureau à m'emmerder avec tes problèmes existentiels. Ça te va maintenant? Pas vraiment. Ah, soupir. Alors, ta chemise te va bien quand je te regarde de dos en train de sortir de mon bureau. C'est mieux? Ah, laissez donc faire, patron. Tu comprends vite, Graton. Merci pour le compliment. Alors, allez-y de 3 petits compliments à cette journée mondiale des compliments, chers amis, et la Terre s'en portera mieux. Manon? Oui, Denis. T'es bien belle aujourd'hui. T'as bu, toi? Entre parenthèses, misère. C'est la chronique d'Isabelle Pion dans la tribune « Consentement sexuel avec les mots d'une adolescente ». C'est parce que des personnes ont été victimes d'agressions sexuelles autour d'elle que Manuela Roland, une élève de 5e secondaire de l'École internationale du Phare, a décidé de se pencher sur la notion de consentement dans le cadre de son projet personnel lié au programme d'éducation internationale. Devant une 40aine d'adolescents, la jeune fille de 16 ans a démystifié les différentes formes d'agression, de même que la question du consentement. Plusieurs personnes autour de moi ont été agressées. J'ai essayé de les aider, de les faire parler, de dénoncer, mais elles n'ont pas voulu en parler. J'ai cru important de plus en parler, a expliqué la jeune fille qui en était à sa 2e présentation du genre. L'adolescente estime que ses pairs en savent peu sur le sujet, d'où l'importance de les sensibiliser. C'est important de leur rappeler qu'il faut que le consentement soit clair, volontaire, qu'il se donne et se retire à tout moment. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit banaliser. C'est vraiment important. L'élève en éducation internationale a commencé à plancher sur ce sujet le printemps dernier, alors qu'elle était en quatrième secondaire. Elle s'est documentée et s'est plongée dans le sujet délicat jusqu'à ce qu'elle rencontre ses camarades de quatrième année. On entend de plus en plus parler de la notion de consentement dans la foulée de « moi aussi ». Les cégeps et les universités ont leur campagne de sensibilisation sur le sujet. Sans oui, c'est non. Qu'en est-il à l'École internationale du Phare? Le thème du consentement est notamment abordé lors de tournées avec un responsable de l'encadrement disciplinaire, RED, et un policier ou encore avec une infirmière. Ce thème peut aussi susciter des discussions lors des cours d'éthique, explique Annie Glaude, psychoéducatrice. Les enseignants sont à l'affût de l'actualité, lance-t-elle en citant notamment les discussions suscitées avec la série Fugueuse. Le fait que ce soit une adolescente qui en parle à ses camarades ajoute au poids du message, commente Annie Glaude. C'est merveilleux l'impact. Ça ne passe pas toujours aussi bien avec des adultes, lance-t-elle en soulignant que les jeunes vont parler le même langage. Lors de la conférence, les adolescents ont pu apprendre ce qu'était le frotteurisme, un comportement non désiré qui peut survenir autant dans les transports publics que dans les bars. Un aspect de la présentation qui a suscité des réactions. Il faut parfois remettre les pendules à l'heure puisque certains comportements peuvent être banalisés, estime la psychoéducatrice en soulignant l'importance de remettre les choses en question. De telles interventions permettent aussi de responsabiliser les jeunes à l'aube de leur vie d'adulte. Dans le Nouvelliste de Vincent Mongrain, l'organisme L'Évasion, qui propose des services de gardiennage et d'accalmie pour les personnes handicapées, a procédé à l'inauguration d'une deuxième maison de répit à Trois-Rivières. Effectivement, la maison Louise-Beaurivage permettra d'ajouter 5 places en répit de 24 heures ou plus pour les enfants âgés entre 11 et 16 ans. L'ouverture officielle de cette dernière est prévue à compter du 26 mars prochain. L'ouverture de cette seconde maison se veut une façon de répondre à la volonté du CIUS-MCQ d'augmenter le nombre d'usagers et le nombre d'heures. Ainsi, le conseil d'administration de l'Évasion a décidé de se porter acquéreur d'une deuxième demeure. Située au 570 rue Alfred-Cambray dans le secteur Cap de la Madeleine, elle s'ajoutera donc à l'offre de 12 places de la résidence Armand-Dionne. Dans un premier temps, nous avions décidé d'agrandir la résidence Armand-Dionne. Cependant, nous avons réalisé que physiquement, ce n'était pas possible. C'est à ce moment-là que le conseil d'administration a envisagé la possibilité d'acheter une autre maison. Les services sont donc offerts dans un cadre de type familial et les résidents profitent d'activités variées et stimulantes lors de leur séjour, explique Danielle Junot, directrice générale de l'Évasion. Ces 5 nouvelles places seront dédiées aux familles ayant un ou des enfants présentant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique sans problème de mobilité important. Et juste pour terminer sur cette nouvelle, le conseil d'administration a également invité la population à une journée porte ouverte le dimanche 18 mars prochain de 13h30 à 16h. C'est l'émission Le quotidien des quotidiens en cours. Et je rigole parce que Mathieu me fait rire. Il me donnait mon temps pour que je ne parle pas par-dessus les publicités. Et il a échappé son petit papier indiquant le temps. C'est tout nounou comme cela, mais ça m'a fait rigoler. Il y a des jours comme ça. Alors, bon 1er mars, journée des compliments. Je vous en fais plein. Merci d'être à l'écoute. Vous avez fait le bon choix.